Chapitre 10. Il faisait sombre dans le petit appartement de la rue de Constantinople, car Georges Duroy et Clotilde de Marelle, s'étant rencontrés sous la porte, étaient entrés brusquement, et elle lui avait dit, sans lui laisser le temps d'ouvrir les persiennes, « Ainsi tu épouses Suzanne Walter ?» Il avoua avec douceur et ajouta, « Tu ne le savais pas ?» Elle reprit debout devant lui, furieuse, indignée, « Tu épouses Suzanne Walter ?» C'est trop fort, c'est trop fort. Voilà 3 mois que tu me cajoles pour me cacher ça. Tout le monde le sait, excepté moi. C'est mon mari qui me l'a appris. Duroy se mit à ricaner, un peu confus tout de même, et ayant posé son chapeau sur un coin de la cheminée, il s'assit dans un fauteuil. Elle le regardait bien en face, et elle dit d'une voix irritée et basse, « Depuis que tu as quitté ta femme, tu préparais ce coup-là, et tu me gardais gentiment comme maîtresse pour faire l'intérim. Quel gredin tu es !» Il demanda, « Pourquoi ça ?»« J'avais une femme qui me trompait. Je l'ai surprise. J'ai obtenu le divorce et j'en épouse une autre. Quoi de plus simple ?» Elle murmura, frémissante. « Oh, comme tu es roué et dangereux, toi !» Il se remit à sourire. « Parbleu, les imbéciles et les niais sont toujours des dupes. » Mais elle suivait son idée. « Comme j'aurais dû te deviner dès le commencement. Mais non, je ne pouvais pas croire que tu serais crapule comme ça. » Il prit un air digne. « Je te prie de faire attention aux mots que tu emploies. » Elle se révolta contre cette indignation. « Quoi ? Tu veux que je prenne des gants pour te parler maintenant ? Tu te conduis avec moi comme un gueux depuis que je te connais. Et tu prétends que je ne te le dise pas. Tu trompes tout le monde. Tu exploites tout le monde. Tu prends du plaisir et de l'argent partout et tu veux que je te traite comme un honnête homme. » Il se leva et la lèvre tremblante. « Tais-toi ou je te fais sortir d'ici. » Elle balbutia. « Sortir d'ici ? Sortir d'ici ? Tu me ferais sortir d'ici, toi ? Toi ?» Elle ne pouvait plus parler, tant elle suffoquait de colère et brusquement, comme si la porte de sa fureur se fût brisée. Elle éclata. « Sortir d'ici ! Tu oublies donc que c'est moi qui l'ai payé, depuis le premier jour, ce logement-là. Ah ! Oui, tu l'as bien pris à ton compte de temps en temps. Mais qui est-ce qui l'a loué ? C'est moi. Qui est-ce qui l'a gardé ? C'est moi ! Et tu veux me faire sortir d'ici ? Tais-toi donc. Vaurien ! Crois-tu que je ne sais pas comment tu as volé à Madeleine la moitié de l'héritage de Vaudrec ? Crois-tu que je ne sais pas comment tu as couché avec Suzanne pour la forcer à t'épouser ?» Il la saisit par les épaules et la secoua entre ses mains. « Ne parle pas de celle-là ! Je te le défends !» Elle cria, « Tu as couché avec ! Je le sais !» Il eût accepté n'importe quoi, mais ce mensonge l'exaspérait. Les vérités qu'elle lui avait criées par le visage lui faisaient passer tout à l'heure des frissons de rage dans le cœur. Mais cette fausseté sur cette petite fille qui allait devenir sa femme éveillait dans le creux de sa main un besoin furieux de frapper. Il répéta « Tais-toi ! Prends garde ! Tais-toi !» Et il l'agitait comme on agite une branche pour en faire tomber les fruits. Elle hurla, décoiffée, la bouche grande ouverte, les yeux fous. « Tu as couché avec !» Il la lâcha et lui lança par la figure un tel soufflet qu'elle alla tomber contre le mur. Mais elle se retourna vers lui et, soulevée sur ses poignets, vociféra encore une fois « Tu as couché avec !» Il se rua sur elle et, la tenant sous lui, la frappa comme s'il tapait sur un homme. Elle se tut soudain et se mit à gémir sous les coups. Elle ne remuait plus. Elle avait caché sa figure dans l'angle du parquet et de la muraille, et elle poussait des cris plaintifs. Il cessa de la battre et se redressa. Puis il fit quelques pas par la pièce pour reprendre son sang-froid. Et une idée lui étant venue, il passa dans la chambre, emplit la cuvette d'eau froide et se trempa la tête dedans. Ensuite, il se lava les mains et il revint voir ce qu'elle faisait, en s'essuyant les doigts avec soin. Elle n'avait point bougé. Elle restait étendue par terre, pleurant doucement. Il demanda, « Auras-tu bientôt fini de larmoyer? » Elle ne répondit pas. Alors il demeura debout au milieu de l'appartement, un peu gêné, un peu honteux, en face de ce corps allongé devant lui. Puis tout à coup, il prit une résolution et saisit son chapeau sur la cheminée. « Bonsoir. Tu remettras la clé au concierge quand tu seras prête. Je n'attendrai pas ton bon plaisir. » Il sortit, ferma la porte, pénétra chez le portier et lui dit « Madame est restée. Elle s'en ira tout à l'heure. Vous direz au propriétaire que je donne congé pour le 1er octobre. Nous sommes au 16 août. Je me trouve donc dans les limites. » Et il s'en alla à grands pas, car il avait des courses pressées à faire pour les derniers achats de la corbeille. Le mariage était fixé au 20 octobre, après la rentrée des chambres. Il aurait lieu à l'église de la Madeleine. On en avait beaucoup jasé sans savoir au juste la vérité. Différentes histoires circulaient. On chuchotait qu'un enlèvement avait eu lieu, mais on n'était sûr de rien. D'après les domestiques, Madame Walter, qui ne parlait plus à son futur gendre, s'était empoisonnée de colère le soir où cette union avait été décidée, après avoir fait conduire sa fille au couvent à minuit. On l'avait ramenée presque morte. Assurément, elle ne se remettrait jamais. Elle avait l'air maintenant d'une vieille femme, ses cheveux devenaient tout gris, et elle tombait dans la dévotion, communiant tous les dimanches. Dans les premiers jours de septembre, la vie française annonça que le baron du roi de Cantel devenait son rédacteur en chef, M. Walter conservant le titre de directeur. Alors on s'adjoignit un bataillon de chroniqueurs connus, des Côtiers, de rédacteurs politiques, de critiques d'art et de théâtre, enlevés à force d'argent aux grands journaux, aux vieux journaux puissants et posés. Les anciens journalistes, les journalistes graves et respectables, ne haussaient plus les épaules en parlant de la vie française. Le succès rapide et complet avait effacé la mésestime des écrivains sérieux pour les débuts de cette feuille. Le mariage de son rédacteur en chef fut ce qu'on appelle un fait parisien. Georges Duroy et les Walter ayant soulevé beaucoup de curiosité depuis quelque temps. Tous les gens qu'on cite dans les Échos se promirent d'y aller. Cet événement eut lieu par un jour clair d'automne. Dès 8 heures du matin, tout le personnel de la Madeleine, étendant sur les marches du haut perron de cette église qui domine la rue Royale, un large tapis rouge, faisait arrêter les passants, annonçait au peuple de Paris qu'une grande cérémonie allait avoir lieu. Les employés se rendant à leur bureau, les petites ouvrières, les garçons de magasin, s'arrêtaient, regardaient et songeaient vaguement aux gens riches qui dépensaient tant d'argent pour s'accoupler. Vers 10 heures, les curieux commencèrent à stationner. Ils demeuraient là quelques minutes, espérant que peut-être ça commencerait tout de suite. Puis ils s'en allaient. À 11 heures, des détachements de sergents de ville arrivèrent et se mirent presque aussitôt à faire circuler la foule, car des attroupements se formaient à chaque instant. Les premiers invités apparurent bientôt, ceux qui voulaient être bien placés pour tout voir. Ils prirent les chaises en bordure le long de la nef centrale. Peu à peu, il en venait d'autres, des femmes qui faisaient un bruit d'étoffe, un bruit de soie, des hommes sévères, presque tous chauves, marchant avec une correction mondaine, plus grave encore en ce lieu. L'église s'emplissait lentement. Un flot de soleil entrait par l'immense porte ouverte, éclairant les premiers rangs d'amis. Dans le chœur, qui semblait un peu sombre, l'autel couvert de cierges faisait une clarté jaune, humble et pâle en face du trou de lumière de la grande porte. On se reconnaissait, on s'appelait d'un signe, on se réunissait par groupes. Les hommes de lettres, moins respectueux que les hommes du monde, causaient à mi-voix. On regardait les femmes. Norbert de Varenne, qui cherchait un ami, aperçut Jacques Rival vers le milieu des lignes de chaises, et il le rejoignit.
« Eh bien, » dit-il, « l'avenir est au malin. »
L'autre, qui n'était point envieux, répondit « Tant mieux pour lui, sa vie est faite. » Et ils se mirent à nommer les figures aperçues. Rival demanda « Savez-vous ce qui est devenu sa femme ?» Le poète sourit
« Oui et non. Elle vit très retirée, m'a-t-on dit, dans le quartier Montmartre. Mais, il y a un mais, je lis depuis quelque temps dans la plume Des articles politiques qui ressemblent terriblement à ceux de Forestier et de Duroy. Ils sont d'un nommé Jean Le Dol, un jeune homme beau garçon, intelligent, de la même race que notre ami Georges, mais qui a fait la connaissance de son ancienne femme. D'où j'ai conclu qu'elle aimait les débutants et les aimerait éternellement. Elle est riche d'ailleurs. Vaudrec et La Roche-Mathieu n'ont pas été pour rien les assidus de la maison. Rival déclara « Elle n'est pas mal, cette petite Madeleine. Très fine et très rouée. Elle doit être charmante au découvert. Mais dites-moi, comment se fait-il que Duroy se marie à l'église après un divorce prononcé ?» Norbert de Varenne répondit « Il se marie à l'église parce que pour l'église, il n'était pas marié la première fois. » « Comment ça ?»« Notre belle amie !» par indifférence ou par économie, avait jugé la mairie suffisante en épousant Madeleine Forestier. Il s'était donc passé de bénédictions ecclésiastiques, ce qui constituait, pour notre sainte mère l'Église, un simple état de concubinage. Par conséquent, il arrive devant elle aujourd'hui en garçon, mais elle lui prête toutes ses pompes qui coûteront cher au père Walter. »